Les Ptolémées.
Faites-moi pardon, monseigneur, de ne pouvoir me lever pour mieux vous accueillir,
dit Spinello Ptolémée d'une voix haletante à l'entrée de Robert d'Artois. Le vieux banquier était allongé sur un lit dressé dans son cabinet de travail. Une couverture légère laissait deviner la forme de son gros ventre et de sa poitrine amenuisée. Une barbe de 8 jours semblait sur ses joues effondrées comme un dépôt de sel, et sa bouche bleuie cherchait l'air. Mais de la fenêtre donnant sur la rue des Lombards ne venait aucune fraîcheur. Paris cuisait sous le soleil d'un après-midi d'août. Il ne restait plus beaucoup de vie dans le corps de Messer Ptolémée, plus beaucoup de vie dans le regard de son seul œil ouvert, qui n'exprimait rien qu'un mépris fatigué, comme si 80 années d'existence avaient été un bien inutile effort. Autour du lit se tenaient 4 hommes aux teints basanés, aux lèvres minces, aux yeux luisants comme des olives noires, et tous vêtus également de robes sombres.
« Mes cousins, Ptolomeo Ptolomei, Andrea Ptolomei, Giacomo Ptolomei, »
dit le moribond en les désignant.
« Et puis, vous connaissez mon neveu, Guccio Baglioni. »
À 35 ans, les tempes de Guccio étaient déjà blanches.
« Ils sont tous venus de Sienne pour me voir mourir, et aussi pour d'autres choses, »
ajouta lentement le vieux banquier. Robert d'Artois, en chausse de voyage, le buste un peu penché sur le siège qu'on lui avait avancé, regardait le vieillard avec cette fausse attention des gens qu'obsède un très grave souci.
« Monseigneur d'Artois est un ami, j'ose le dire, »
reprit Ptolémée à l'adresse de ses parents.
« Tout ce qu'on pourra faire pour lui doit être fait. Il nous a sauvés souvent, et il n'a pas dépendu de lui cette fois. »
Comme les cousins siennois n'entendaient guère le français, Guccio leur traduisit rapidement les paroles de l'oncle, et les cousins hochèrent d'un même mouvement leur face sombre.
« Mais si c'est d'argent que vous avez nécessité, monseigneur, hélas, hélas, malgré tout mon dévouement pour vous, nous ne pouvons rien. Vous savez trop pourquoi. »
On sentait que Spinello Ptolémée économisait ses forces. Il n'avait pas besoin de s'étendre longuement. À quoi bon commenter la situation dramatique où se débattaient depuis quelques mois les banquiers italiens? En janvier, le roi avait rendu une ordonnance par laquelle tous les Lombards se voyaient menacés d'expulsion. Ce n'était pas la chose nouvelle. Chaque règne, en ces moments difficiles, brandissait la même menace et raflait aux Lombards une part de leur fortune en les obligeant à acheter leur droit de séjour. Pour compenser la perte, les banquiers augmentaient pendant 1 an le taux d'usure. Mais l'ordonnance, cette fois, s'accompagnait d'une plus grave mesure. Toutes les créances que les Italiens détenaient sur les seigneurs français se trouvait, de par la volonté royale, annulé. Et il était interdit aux débiteurs de s'acquitter si même ils en avaient le vouloir ou la possibilité. Des sergents royaux, montant la garde aux portes des comptoirs, faisaient rebrousser chemin aux honnêtes clients qui venaient rembourser. Les banquiers italiens en auraient pleuré.
« Et cela parce que la noblesse s'est trop endettée pour ses folles fêtes, pour tous ces tournois où elle veut briller devant le roi. » Même sous Philippe le Bel, nous ne fûmes pas traités de cette façon.
« J'ai plaidé pour vous, » dit Robert.
« je sais, monseigneur. Vous avez toujours défendu nos compagnies. Mais voilà, vous n'êtes guère mieux en grâce que nous à présent. Nous pouvions croire que les choses s'arrangeraient comme les autres fois, mais avec la mort de Massi dei Massi, le dernier coup nous a été porté. »
Le vieil homme tourna son regard vers la fenêtre et se tut. Macchi dei Macchi, l'un des plus grands financiers italiens en France, auquel Philippe VI, depuis le début de son règne, avait confié sur le conseil de Robert l'administration du trésor, venait d'être pendu la semaine précédente, après jugement sommaire. Guccio Baglioni, la voix chargée de colère contenue, dit alors
« Un homme qui avait mis tout son labeur, tout son astuce au service de ce royaume. Il se sentait plus français que s'il était né sur la Seine. » S'est-il enrichi en son office davantage que ceux qui l'ont fait pendre? C'est toujours sur les Italiens qu'on frappe, parce qu'ils n'ont pas moyen de se défendre.